des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, un plateau consacré, comme il se doit, à la rentrée littéraire avec trois livres qui ont pour point commun de parler du deuil et du rêve de résurrection des êtres chers par la littérature. Et si c'était d'ailleurs l'une des grandes fonctions des livres, convoquer la vie par la seule force des mots pour ramener à nous les disparus, ceux qu'on avait cru perdre. Pour en parler, Olivia de Lamberterie, qui publie Avec toutes mes sympathies, Sophie Dole, qui publie Au grand lavoir, et Pauline Delabroix-Allard, l'auteur d'un premier roman, Ça raconte Sarah. Bonjour Olivia de Lamberterie.
Bonjour Christophe.
Vous publiez Avec toutes mes sympathies, c'est chez Stock, c'est votre premier livre au titre totalement saganien, puisque... On se souvient de la bourde que faisait Françoise Sagan quand elle dédicaçait des livres aux États-Unis. Elle écrivait « With all my sympathies », sans savoir que cela voulait dire « Avec toutes mes condoléances ». Condoléances et sympathie ont pourtant d'ailleurs presque le même mot en eux, contiennent la même idée, l'idée d'être avec et l'idée de souffrance, puisque « pathein » en grec, c'est « souffrir »,« doléo » souffrir en latin, et c'est cette douleur, c'est cette souffrance, cette douleur que vous nous racontez, née de la mort d'un frère, Alexandre, qui, je vous cite, allait mal magnifiquement et qui a choisi de ne plus vivre un soir d'octobre 2015. Un frère nevermore, comme vous l'écrivez aussi joliment, auquel vous redonnez vie à travers ce livre. Tombeau pour un frère tombé où souffle le vent de la littérature que vous aimez lire. Je rappelle que vous êtes aussi critique littéraire au magazine Elle, notamment. C'est un livre où vous essayez, Olivia de Lamberterie, d'éclaircir par les mots ce sang noir coulant dans nos veines. Comme s'il y avait une malédiction, au fond, chez les Lamberterie, une fatalité que vous refusez de cautionner parce que vous avez trois fils, vous l'écrivez dans le livre, et qu'il serait bon, enfin, que la vie triomphe. Et c'est ce qui se passe dans votre très beau livre où la vie triomphe, la beauté aussi, le graphisme, les mocassins en requin doré, la pensée magique aussi, en référence à Joan Didion, qui permet à la vie de régner dans ce livre qu'on pensait être au départ être un livre sur la mort. Aucune morbidité, plutôt pulsion de vie. Je parlais, Olivia de Lamberterie, du titre saganien de votre livre. Il était absolument nécessaire, pour faire gagner les forces de la vie sur la douleur, de convoquer le mot sympathie, qui au fond a ce sens positif aussi. Si je vous témoigne ma sympathie, c'est positif.
Oui, parce que comme vous le dites fort bien, je voulais faire un livre vivant sur la mort. Et je trouvais que la manière de le faire, c'était de chercher les bons mots. Parce que la mort coupe la chic aux mots, et le suicide est comme une double peine, puisque il recouvre la vie d'un manteau de tragédie. Or, moi, je voulais qu'on se souvienne que mon frère avait été extrêmement vivant et qu'il avait vécu comme un roi. Donc j'ai vraiment cherché à explorer ce paradoxe, à surfer entre la vie et la mort, la joie et la tristesse, la mélancolie et le bonheur.
Bonjour Sophie Dole.
Bonjour Christophe.
Vous êtes à la gauche d'Olivia de Lamberterie, vous publiez Au grand lavoir aux éditions Philippe Ray. On se souvient de votre superbe texte Camille, mon envolée, sur la mort aussi, on en parlait, mais aussi sur la vie de votre fille défunte. Elle avait 16 ans, il y a eu ensuite La suture où vous partiez à la recherche de votre mère, assassinée à l'âge de 45 ans, vous en aviez 19, et vous publiez aujourd'hui donc Au grand lavoir, titre extrêmement intéressant car il introduit l'idée d'une purification peut-être possible, d'une dimension lustrale, dans un contexte extrêmement violent, puisque dans ce texte qui mêle, vous nous direz, hein, vous me dites surtout si je m'égare, mais qui mêle l'autofiction et la fiction la plus débridée, une narratrice décide de mettre en scène l'assassin de sa mère, de le faire parler, en imaginant qu'un jour, rentrant de son travail de jardinier, il allume la télévision, il la voit dans une émission littéraire, et la voyant, il comprend qui elle est. D'autant qu'elle va venir dédicacer un livre dans la ville où il vit. Ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais c'est très très simple. Il se retrouve, cet homme-là, que vous faites parler, que la narratrice fait parler, confronté au crime qu'il a commis il y a 30 ans, et son petit monde, patiemment reconstitué, s'effondre, puisqu'il sait qu'il ne pourra pas se dérober au face-à-face annoncé entre lui et la fille de sa victime. Je ne vais pas rentrer pour l'instant dans les détails, parce que je préfère que vous nous en parliez, vous. Mais on est avec ce grand Lavoie dans un dispositif romanesque extrêmement élaboré, passionnant. J'ai pensé, moi, aux poupées vaudou, vous savez, dans lesquelles on enfonce des aiguilles pour faire souffrir ce qu'elles représentent. Et pourtant, et je vous dirai pourquoi j'ai pensé à ça, pourtant il y a beaucoup de douceur aussi dans ce livre. Pourquoi aux poupées vaudou? Parce que je me suis demandé si c'était pas la pire des vengeances de faire parler quelqu'un, de faire exister en fait quelqu'un à travers les mots pour lui faire dire ce qu'on veut, alors que cette personne peut-être existe. Mais après tout, c'est votre droit, c'est le droit de la fiction. Et paradoxalement, grande douceur, puisque Au Grand Lavoir parle de, oui, de purification, de laver quelque chose qui serait de l'ordre d'une souillure. Est-ce que ce dispositif extrêmement sophistiqué, Sophie Daul, a opéré chez l'auteur comme une purification?
Dans la mesure où je ne me sentais pas si souillée que ça, et où les mots haine ou vengeance sont absents de ma considération, et littéraire et humaine, cette idée de purification, elle peut apparaître, oui, mais dans un sens qui n'est pas du tout la dimension catholique ou lustrale, comme vous disiez tout à l'heure. C'est quelque chose plutôt de l'ordre de l'apaisement, en fait. De telle sorte que tout ce qui contribue à pouvoir encore agiter les nuits ou avoir le sentiment de pas être allé au bout de quelque chose, aussi bien dans le geste littéraire que dans la pensée. La pensée du pardon, la pensée de la punition opérant ou pas, la pensée de cette mère disparue que j'ai quand même un peu laissée dans son sang avec une idée pas claire de comment exactement elle avait perdu la vie. Donc tant qu'à faire, choisir une couleur qui fixe la réalité pour moi et pour ceux qui s'en souviennent. C'était, oui, de l'ordre de quelque chose qui nettoie, qui... C'est plutôt un bon coup de savon, quoi, un bon sif ammoniacal, bien grattant, quoi, avec le gratton de la voix.
Et enfin, bonjour Pauline de Labroix-Alla.
Bonjour.
Premier roman, Ça raconte Sarah, aux éditions de Minuit, où l'on trouve cette phrase, puisqu'on parlait d'eau lustrale. Je lave son corps comme on lave un objet sacré. Le corps de qui? Le corps de Sarah, le tempérament de Sarah aussi, être absolument incandescent, qui déboule comme une flèche dans la vie d'une... Alors, elle est prof, elle est dans un collège, hein,
un lycée.
Mère d'une petite fille, et que la passion va brûler entre mille étincelles dont vos phrases, hein, courtes, lumineuses, rendent parfaitement compte. Ça raconte Sarah, c'est l'histoire d'une passion absolument furieuse, vibrante, entre deux femmes, mais écrite, et c'est pour ça aussi que vous êtes là, à l'ombre de la mort, qui s'invite dans le texte assez vite, pratiquement dès les premières pages, et je vous cite... À nouveau, c'est une description d'un corps, et on a ces trois lignes. Je ne parviens pas dans cette nuit moite à détacher mes yeux de son corps nu et de son crâne cireux, de son profil de morte. Il fallait que la mort soit là dès le départ, dans sa raconte Sarah. Il fallait que la mort, dans le dispositif romanesque que vous avez choisi, s'invite, que l'idée de la fin de l'amour soit contenue même au moment où vous racontez son début.
Oui, absolument, ce que j'avais très envie de ça, de raconter non seulement un amour, mais surtout une passion. Et la passion prend fin, la passion meurt. Et voilà, donc la mort, c'était une espèce aussi de métaphore de la rupture, quoi, de la fin d'un amour fou.
Donc, rupture définitive. Il y a deux temps, hein, dans le livre aussi. Il y a ce temps, ce portrait, en fait, de Sarah. Et puis, dans un deuxième mouvement, une sorte d'exil... à Trieste, entre celle qui est seule, qui se souvient et qui doit parvenir à retrouver, c'est un peu ce qu'on se disait avec Olivia de Lamberterie, la vie sans elle, en l'occurrence pour vous sans lui, mais la vie quand même, c'est un peu aussi ce qui vous réunit aujourd'hui. Alors bienvenue à toutes les trois sur ce plateau. Je disais que en introduction que le deuil, le souvenir des chers disparus est un motif littéraire extrêmement puissant. Homer, d'ailleurs, s'était emparé de ce motif avec ce qu'on appelle la catabase, le voyage au pays des morts, où Ulysse retrouve sa mère, voit Achille, son vieux compagnon de lutte, qui se plaint d'être un roi aux enfers, alors qu'il préférerait être un paysan, un être humble sur la terre. La littérature est en effet le meilleur véhicule qui soit quand on veut convoquer quelqu'un qui n'est plus. Est-ce que vous avez été les uns les autres accompagnés dans l'écriture par ces grands textes, par ces écrivains? Vous en citez quelques-uns, Olivia de Lamberterie, qui ont eux aussi écrit sur leurs chers disparus. Je parlais de l'année de la pensée magique de Joan Didion, après la mort de son mari, John Gregory Dunne. J'aurais pu parler de Joyce Carol Oates avec J'ai réussi à rester en vie, ou de ces textes dont vous parlez, à Léopoldine, de Victor Hugo.
Oui, j'ai toujours été très intéressée par les tombeaux que les écrivains pouvaient écrire sur leurs disparus. Il y a le tombeau d'Anatole aussi de Mallarmé sur son fils qui est absolument sublime. Et ces livres m'ont effectivement accompagnée dans l'écriture, parce que moi je suis partie dans l'écriture comme ça, vraiment avec sans boussole. Et les seules petites boussoles que je pouvais avoir, c'est que j'avais fait sur mon bureau une sorte d'hôtel avec les livres qui pouvaient m'accompagner. Donc il y avait effectivement L'année de la pensée magique de John Didion, il y avait Sauf qui peut la vie de Nicole Lapierre, qui est un livre très important pour moi parce qu'elle raconte comment beaucoup de membres de sa famille se sont suicidés et comment elle ne veut pas chercher d'explication. Il y avait un très beau livre pour moi qui m'a beaucoup, beaucoup guidée, qui est un livre d'entretien entre le philosophe Vincent Delcroix et Philippe Forest sur le deuil. Parce que très vite, en écrivant, je me suis rendu compte que il y avait une chose que j'avais envie de faire, c'était de raconter la beauté de mon frère, mais qu'il y avait une question qui se superposait, qui était, mais comment est-ce qu'on vit avec les morts? Comment est-ce qu'on peut transformer les absents en vivants?
Surtout pour le lecteur qui ne l'a pas connu.
Absolument. Voilà. Je voulais pas du tout. Moi, j'aime pas du tout les livres qui sont fermés sur eux-mêmes, comme des escargots. Moi, j'aime les livres qui sont ouverts. Et donc, vraiment, je voulais répondre à cette double question. Qui était mon frère? Quel était cet être merveilleux que j'avais envie de faire connaître au monde entier? Et qui n'était pas seulement cet homme qui avait sauté du pont Jacques-Cartier, qui était mon roi. Et puis, en même temps, comment on fait pour vivre avec les morts? Ça suffit pas de s'habiller en noir et de jeter des fleurs sur une tombe. C'est pas possible. Et puis après,
l'expérience des autres, en l'occurrence des autres écrivains,
vous portez
des jalons aussi dans cette voilà.
Et exactement. Ouais. Et celle de Philippe Forest qui dit non, je ne veux pas faire mon deuil, m'a mais alors porté au-delà de tout.
Sophie Dole, c'est quelque chose que vous expérimentez d'ailleurs depuis votre premier livre aussi, parce qu'il se trouve que votre premier livre a été un livre qui parlait du deuil, comme le livre d'Olivier, et comme votre livre, même si c'est une fiction revendiquée, ça raconte Sarah. En tout cas, on n'ira pas chercher. Mais chez vous, Olivia, vous le dites que ce n'est pas, on n'est pas dans la fiction, on est vraiment dans le réel. Le nom du frère est là, votre propre nom aussi. Oui. Sophie Dole, vous avez été aussi accompagnée par justement des grands textes littéraires quand vous avez commencé à écrire sur Camille, par exemple.
Étrangement, non, alors que j'ai un contact foisonnant avec la littérature et que c'est mon soutien depuis toute petite, mais il y a eu vraiment une panne là dans la rencontre avec les livres était totalement bloquée. Je pouvais pas imaginer qu'il soit une ressource. Donc ça a pris beaucoup de temps et très étrangement, je me souviendrai toujours du premier livre que j'ai relu après, quand j'ai un peu émergé de tout ça, c'était Triste Tropique, que j'avais jamais lu. Et c'est bizarrement celui-ci qui m'a redonné le goût de lire, parce que je crois qu'il contenait tellement d'ailleurs, tellement d'extérieur, tellement de plus grand que moi et mon petit chagrin, que là j'ai dit ah ouais, ok le monde. Et du coup j'ai pu opérer, parce que vous parliez
c'est joli, ok le monde.
Mais oui, ok le monde, parce que vous parliez de Catabase tout à l'heure, mais il y a aussi l'Anabase.
Exactement.
Et l'Anabase, c'est rentrer chez soi en remontant.
Exactement.
De Xénophon, et ce levier-là, il s'est articulé. Et après, j'ai été chercher Forest.
C'est drôle que vous parliez de Xénophon, parce que c'est en l'occurrence le retour de soldats qui traversent tout un empire hostile pour rejoindre la mer.
Oui, et ce sont des perdants.
Talata, d'ailleurs. Ouais.
Et ce sont des perdants.
Et ce sont des perdants.
Ce sont des vaincus.
Ouais. C'est drôle, cette superposition-là. Mm. Pauline Delabroix-Allard, c'est aussi votre premier texte. Olivia de Lambertureux parlait de rituels d'écriture, de convoquer un certain nombre d'objets amis, de livres amis. Est-ce que ça a été aussi votre cas? Est-ce qu'il y a eu un rituel spécifique aussi avant de se lancer dans ce premier texte, qui est quand même qui est une forme d'anabase, aussi personnelle, intime?
Alors, un peu comme Sophie, moi j'ai eu beaucoup de mal à lire tout court pendant le temps d'écriture. Et je voulais raconter, donc vraiment c'était mon idée, raconter une passion. Et avant ça, j'ai relu d'ailleurs, j'avais lu il y a plusieurs années Barthes, Fragment d'un discours amoureux. Et je l'ai terminé, je l'ai refermé et je me suis dit bon, Bah en fait, je vais laisser tomber cette idée. Voilà. J'arrête. Je veux dire, il a tout expliqué. Ouais. C'est limpide, c'est incroyable. Enfin, c'est, pour moi, c'est un des textes très importants. Et puis, bon, le temps a passé. Je me suis dit, je vais quand même essayer. Mais surtout, je ne rouvre plus rien parce que sinon, en fait, je n'écrirai jamais. Vraiment, je me suis dit ça.
Et vous aviez 30 ans. En plus, c'était le moment, vous l'expliquez, c'était le moment ou jamais, quoi.
Voilà. Voilà. Donc, je me suis dit, bon...
C'est elle qui le dit, hein, c'est pas moi.
Donc, j'ai un panthéon personnel, etc. Mais là, je les ai bien laissés soigneusement dans un coin en me disant, je vais pas les convoquer.
On commence avec vous, Olivia de Lamberterie, avec toutes mes sympathies, c'est chez Stock. Mais on écoute d'abord votre choix musical, David Bowie, Life on Mars.
Le temps des écrivains. It's a god-awful small affair. Christophe Onodibio. To the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Is there life on Mars?
David Bowie, Life on Mars, toujours terrible d'interrompre David Bowie. C'est le choix d'Olivia de Lamberterie qui publie avec toutes mes sympathies chez Stock son premier livre. Pourquoi ce choix musical? Il est beaucoup question de musique hein, d'ailleurs dans ce livre.
Oui, parce que mon frère aimait énormément la musique et que parmi les nombreux souvenirs que j'ai avec lui, j'ai celui de la découverte de David Bowie. Il est tout jeune, adolescent, le mot préadolescent n'existait pas encore à cette époque. Mais on est ensemble et il découvre cette musique dont il va devenir fou. Et je pense que, comme moi, quand j'ai découvert les livres, cette musique a changé sa vie parce qu'on était une famille très bourgeoise. C'était un petit garçon qui allait à l'école chez les jésuites. Et je pense que David Bowie lui a montré qu'il y avait un ailleurs possible et que dans sa vie, ça a été, oui, le premier pas peut-être de transgression vers une vie qu'il allait inventer. Et puis après, c'est un double choix parce qu'il est mort le 14 octobre 2015, que Bowie est mort en janvier 2016, donc vraiment peu de temps après, et que le dernier titre de David Bowie, qui s'appelle Lazarus, est un titre où il met complètement en scène sa mort, et je pense que mon frère a mis en scène sa mort aussi, et j'étais très troublée dans les paroles de Lazarus de voir que David Bowie dit « Je suis maintenant libre comme un merle bleu », et comme j'ai l'idée folle peut-être, mais en tous les cas certaine que mon frère est réincarné en un oiseau, tout ça m'a beaucoup troublée. Tout d'un coup, le jour de la mort de David Bowie, bon, je me suis dit « Génial, ça fait un bon camarade pour mon frère, quelque part ».
C'est un livre qui est plein de signes, d'ailleurs, justement, de signes à interpréter sans arrêt. Alors, est-ce qu'on les interprète parce que ça nous arrange ou, en tout cas, cette attention au...
Parce que je pense... parfois, je me dis, je suis devenue complètement dingo, parce qu'effectivement, je vois des signes partout. Et puis, parfois, je me dis, je suis devenue très sage, parce que c'est impossible que la vie s'arrête au visible. Ou alors vraiment, sinon ça sert à rien.
On parlait de Xénophon, c'est très antique de voir justement des signes chez les oiseaux, le vol.
Donc que ce soit dans la mythologie ou que ce soit dans la lecture du philosophe Alain qui m'a beaucoup consolée, je pense que c'est impossible et que la vie, tout ce qui est invisible est aussi vivant que ce qu'on voit autour de nous.
Précisément, on parlait de Singh, comme un mot sur ce livre, donc Avec toutes mes sympathies, qui se place donc sans phare, sans masque, du côté du réel. Et donc, vous écrivez en hommage à ce frère hein, dont vous nous parlez, Alexandre, qui a choisi hein, de mourir de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec. C'est un livre qu'il vous avait demandé d'écrire. C'est donc à lui, en fait, qu'on doit ce livre. Un livre, alors, pour le faire vivre, certes, c'est ce que vous avez choisi de faire, mais ce qui était étonnant, c'est qu'il vous demandait d'écrire ce livre pour essayer d'expliquer quelque chose qui se passait dans votre famille et qui était une sorte de malédiction familiale, puisque dans cette famille, en fait, la famille était jalonnée par des suicides en fait successifs chez les garçons. Et peut-être voulait-il lui comprendre pourquoi de petit prince blond et rieur qu'il était, il était passé vers cette figure aussi sombre, aussi très très mélancolique. Mais je le redis, c'est un livre où c'est la vie hein, qui gagne jusque... Sans vouloir dévoiler, vous avez vous-même parlé déjà de cette scène, mais de cette nage que vous faites au milieu de ces cendres répandues dans la Méditerranée, qui très très belle scène, et jusque dans l'apparition aussi d'un être aquatique, aussi d'un dauphin qui surgit comme saluant le disparu, qui revient donc dans les dernières pages du livre, peut-être sous cette apparition. Diriez-vous que c'est un livre qui est né précisément à cause de l'apparition de certains signes inexplicables qu'il fallait déchiffrer, puisqu'il vous envoie même un message, texto presque.
Oui, c'était vraiment très étonnant, parce que moi je vis parmi les livres et les mots depuis toujours, mais je ne voulais pas écrire, je disais toujours « parce que je n'ai rien à dire ». Et puis là, j'ai vraiment eu l'impression que je pouvais pas échapper à cette écriture pour lui, pour effectivement, pour tous ces signes, et puis aussi pour mes enfants, parce que j'appartiens à une famille dans laquelle on a effectivement une très fâcheuse tendance à se suicider, puisqu'il y a quand même il y a 4 cousins germains de mon père qui se sont suicidés de manière assez violente, enfin de manière très violente. Et que c'était des choses qu'on savait sans savoir et que j'avais envie d'explorer, effectivement. Mmh. Et que j'ai 3 fils, donc j'avais l'impression que mettre ces mots, c'était aussi les protéger d'une malédiction.
Donc, qu'est-ce que vous avez découvert d'ailleurs sur cette malédiction? Parce que parmi ces signes, après la mort de ce frère, il y a un message en fait de lui qui vous arrive. Écris-le, j'aimerais qu'on vous entende d'ailleurs lire ce passage, Olivia de Lambertherie.
Les matins blancs se suivent et se ressemblent. Pas de message de toi, mais des signes surgis de je ne sais quelle outre-tombe. Je reste des heures sur Facebook à me nourrir des messages postés par tes amis dans le groupe créé par Florence juste après ta mort. Bye Alex. J'ai un compte, mais je ne me connecte guère. Je suis une femme préhistorique, j'habite le papier. Sur les réseaux sociaux, je me figure une poule devant un couteau électrique. Je réalise qu'on peut traîner sur Facebook, comme dans les rues, un dimanche à Paris, et au milieu de centaines d'avez-vous reçu, avez-vous lu, je découvre un message envoyé par toi l'année dernière. Écris ton livre. J'ai envie de pleurer. Je rembobine les mois à la recherche de cet instant où tu t'es assis devant ton ordinateur pour m'envoyer cet ordre sans appel et sans commentaire. Tu l'as posté après que je suis venue vous rendre visite à Montréal. Nous avions passé des verres et des verres, assis dans ta véranda, les mots n'en finissaient plus de couler, à tenter de nommer ce goudron obscurcissant nos sorts heureux, cette mélancolie qui te laissait moribond plus d'un 4 matins. Nous avions pareillement conscience de nos privilèges et de notre impuissance. Quelle était la nature de cet invisible héritage, lestant nos aubes avant de se dissoudre dans le rythme forcené des journées, toujours susceptible de ressurgir au petit bonheur la chance. Ce truc qui nous cloue, tu devrais l'écrire. Raconte-le toi d'où on vient. Si tu le fais, quelque chose pourra changer.
Merci Olivia de Lambertherie, donc avec toutes mes sympathies. On entend ce frère parler, on voit son message aussi. Est-ce que vous avez réussi finalement? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette malédiction familiale? Est-ce qu'on trouve quelque chose? Parce qu'il y a une chose qui est importante, vous dites... que écrire, faut surtout pas que ce soit une thérapie.
Oui, alors moi je ne crois pas du tout aux livres qui font du bien, je ne crois pas du tout aux... Je ne crois ni au règlement de compte, ni à la littérature thérapeutique. Et je pense que chacun a sa façon de vivre le deuil et que le deuil tue, peut-être d'ailleurs aussi beau qu'un deuil formulé. Donc je ne crois pas du tout à ça. Je ne voulais pas trouver d'explication à la mort de mon frère. Ces raisons lui appartiennent et je me serais sentie vraiment traître de vouloir donner des explications. En revanche, ce que je voulais explorer, c'est la mélancolie. Qu'est-ce que c'est que cette mélancolie? Qu'est-ce que c'est que cette maladie, au fond, quand même si je n'aime pas ce mot,
qui porte un nom
aussi, hein. Que les médecins à Montréal ont fini par identifier comme la dysthymie, qui n'a rien à voir avec la bipolarité d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce truc, avec ma belle-sœur, on appelait ça le truc, qui parfois vous enchante et qui parfois vous cloue au sol. Parce qu'il y avait un truc qui m'a rendue très furieuse, parce que j'étais vraiment pleine de fureur, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le livre de Pauline, c'est qu'il y a une fureur dans la mort et dans l'amour que j'adore, parce que les gens me disaient, mais si ton frère s'est suicidé, c'est comme mon oncle, mon cousin, parce qu'ils avaient tout raté. Or, mon frère n'était absolument pas un loser, mon frère avait tout réussi. Donc qu'est-ce que c'est que cette mélancolie qui, alors que vous avez une femme que vous aimez, des enfants que vous aimez, un boulot que vous aimez, que vous êtes vraiment heureux de ce que vous faites et de ce que vous avez construit, qu'est-ce que c'est que ce truc qui vous empêche de vivre et qui fait que, eh ben, un jour, vous décidez d'aller sauter d'un pont? C'était ça que je voulais éclaircir.
Et alors, est-ce que l'écriture a permis justement d'élucider ce
mystère? Un petit peu pour moi, pour moi. Et puis, j'espère aussi un peu pour les autres. Mais...
J'hésitais à vous faire lire d'autres passages qui sont écrits par votre frère. En fait, ce sont des... Et que vous citez dans le livre. Il s'agit d'un certain nombre de mails qu'il envoie à sa famille, donc à Lavaux, depuis la ville où il s'est installé. C'était important de mêler ces mots aux vôtres, un peu comme on le fait quand on est enfant, quand on fait des pactes d'amitié où on s'ouvre au canif le doigt et on mélange les sangs, voilà, d'amitié ou d'amour.
Parce que je voulais qu'on entende sa voix. Il avait une voix particulière. Et ce matin, j'ai reçu un message qui m'a beaucoup touchée d'un ami qui est musicien et qui m'a dit « Est-ce que tu aurais un message avec la voix de ton frère ? Parce que je voudrais savoir si elle correspond à la voix que j'ai entendue dans le livre. » Et ça m'a beaucoup plu comme message. Je voulais qu'on entende son humour, son esprit. Parce que comme je disais, le suicide est quand même très tabou encore en France et dans les pays occidentaux. Et je voulais qu'on entende aussi son bonheur, pas seulement sa mélancolie. Je voulais vraiment qu'on entende les deux. Et c'est pour ça que je tenais
une
aussi...
Façon de rendre juste... Il y a presque une idée de rendre justice, oui, au fond, à ce geste qui, oui, pour vous reste inexplicable, mais de rendre justice, oui, à l'être qu'il était.
Oui, oui, ouais, absolument. Et puis après, je voulais mettre des mots. J'ai été très frappée, à la mort d'Alex, de voir comme finalement, les gens avaient peur des mots. Donc personne dit suicide, les gens disent départ, et alors moi ça
me dit il est parti.
Il est parti. Et alors ça je voulais vraiment que ça soit les mots les plus précis possibles et les plus violents parce que
Ou alors précisément justement sur ces mots qui sont parfois violents aussi et ces moments aussi de beauté parce que vous faites il a fallu que vous opériez un tri aussi dans les souvenirs dans l'album familial aussi énormément de scènes sont racontées de vous votre c'est aussi un moyen aussi de revivre votre propre vie avec lui et puis sans lui maintenant justement quand on écrit comme ça sur sa famille et qu'on fait le parti de ne pas être dans la fiction vous auriez pu faire une fiction vous avez choisi de ne pas faire justement une fiction d'être vraiment dans le réel est-ce qu'on prend des précautions est-ce que vous êtes limité dans l'écriture, vous mettez en scène des gens qu'il a aimés, vous mettez en scène son portrait magnifique, Florence, donc la femme qu'il a aimée. Il y a eu quand même des précautions, c'est un premier livre aussi. Donc.
Je dirais que des précautions, je n'en ai pris aucune à partir du moment où j'avais décidé que...
Du maman, vous avez...
Du moment, drôle. Oui, pardon. À partir du moment
Sophie
où
Dole
justement...
A relevé. Voilà.
J'avais décidé que ce livre serait porté par l'amour que j'ai pour ma famille et que j'avais pour mon frère. Après, je pense que la littérature est une prise de risque. Mm-hmm. Donc je me suis dit, alors là, j'y vais sans penser à rien du tout. Bon, et puis j'avais un autre parti pris qui était que pour raconter l'enfance, je voulais le faire de manière très impressionniste et à hauteur d'enfance. C'est-à-dire que je voulais vraiment raconter les scènes dont je me souvenais, petite fille, avec mon frère, comment, quand on était enfant dans la maison de vacances, dans la maison de Cannes, on dormait sur le carrelage en tomettes rouges pour avoir la fraîcheur des tomettes.
Et donc, les cabanes aussi.
Voilà, je voulais rien faire d'autre que comme ça, les souvenirs qui remontaient au fur et à mesure de l'écriture. Après, je me suis rendu compte d'un truc fou dans l'écriture. C'est que moi, je suis partie, alors vraiment, la fleur au fusil, hop, j'ai allumé l'ordi, le premier mot, bon. Et puis, pour avoir interviewé beaucoup d'écrivains, je me souviens très bien que de Modiano à Delphine de Vigan, en passant
Emmanuel Carrère aussi,
par Emmanuel Carrère, ils m'avaient tous dit que quand ils se mettaient à écrire, il y avait un instant où les choses les dépassaient et tout d'un coup, ça s'écrivait en dehors d'eux. Et quand ils me racontaient ça, moi, j'étais toujours extrêmement sceptique. Je me disais, ça serait magique si c'était comme ça.
Pauline de la Broye-Allard sourit. Voilà.
Vous allez me raconter, mais je me souviens très bien d'un instant où tout d'un coup, j'ai découvert que ça se faisait malgré moi.
Et vous y avez vu d'autres signes?
Oui, exactement. Mais que tout d'un coup, c'était pas ce que j'avais décidé d'écrire qui s'écrivait sur l'ordinateur.
C'est assez touchant d'ailleurs aussi, parce que vous entrecroisez votre, à la fois, non pas le livre en train d'écrire, mais en tout cas certains conseils que soit des écrivains vous ont donnés, soit que vous avez pris de leur livre, notamment un conseil d'Emmanuel Carrère qui vous disait qu'on ne devrait écrire que des histoires que personne d'autre ne pourrait écrire. Ça vous va aussi très bien, Sophie Dole. C'est aussi touchant de voir que cette littérature, finalement, aujourd'hui, 21e siècle, technologie, reste le meilleur véhicule pour justement reprendre une conversation, peut-être avec quelqu'un qui n'est plus là, qui serait censé ne plus être là pour tenir cette conversation avec soi.
Oui, et ça a conforté une de mes certitudes qui est que je ne crois qu'aux mots. Les mots des autres qui me portent et me transpercent. Et puis aujourd'hui, ces mots-là qui font que, quand j'avais pas de courage, je me disais, bon ben, dans 100 ans, on sera tous morts, mais peut-être que dans la bibliothèque de Clermont-Ferrand, il y aura ce livre et mon frère, lui, sera pas mort.
Tombeau pour un frère tombé, voilà. Sophie Dole, je vous voyais acquiescer quand Olivier de Lambertorie disait que l'écriture, la littérature ne devait absolument pas être une thérapie. Parce que je vous pose la question à vous, on parlera de fiction aussi avec vous, Pauline de la Broye-Allard, mais vous êtes, alors d'ailleurs je ne sais pas comment présenter ça, est-ce que finalement vous mettez à distance le réel? Je vous pose la question, comme ça on sera tranquille pour la suite de l'interview, ou est-ce que vous voulez assumer le fait que la narratrice du livre, c'est vous, puisqu'en fait en quelques clics sur internet, vous parlez d'un film, d'un documentaire sur l'assassin, et on s'aperçoit que c'est vous-même qui avez figuré dans ce documentaire. Mais alors dites-moi, et comme ça après
il va falloir accepter de tricoter avec les deux.
Voilà.
Ce serait trop facile. Ouais. Bien sûr, il y a cette dimension de l'archiréel, parce qu'on peut pas s'émanciper d'événements comme ça qui sont fondateurs et de ma langue et de la personne que je suis maintenant. Donc je vois pas pourquoi j'irais le tripoter pour y mettre de la fiction, dans la mesure où c'est suffisamment... c'est un très bon sujet. Et de l'autre côté, quoi d'autre que la malice de la fiction, de la littérature, pour pouvoir justement pénétrer ces zones de tragédie qui rendent... Enfin, quand on fonde son écriture, c'est le cas aussi d'Olivia, sur un événement qui est de l'ordre de ceux qui laissent exsangues, qui laissent apathiques, muets, qui mettent sous cloche pour se hisser au-dessus de ça, pour prendre de la hauteur, il y a un coup de talon à donner au fond de ce puits-là.
Une anabase à
provoquer. C'est exactement, on reviendra décidément, parce qu'il est aussi question des Grecs,
Mézérini.
Voilà. Cette merveille que procure la littérature avec l'immense liberté que la construction littéraire engendre et les emprunts qu'on peut faire à ce qu'on veut de notre intérieur, mais aussi de tout ce qu'on observe qui continue à faire sens. Alors, moi, je peux pas trancher.
Je donne juste la parole à Pauline de la Broye-Allard qui publie donc Ça raconte Sarah, son premier roman. Parce que je voyais sourire quand Sophie Dole disait, voilà, il y a une expérience fondatrice tellement, tellement forte que, voilà, pourquoi pas la prendre telle qu'elle est? Vous avez choisi plutôt la fiction, en fait.
Je souriais parce que je trouvais que Sophie répondait extrêmement bien à cette question pourtant compliquée. Et j'étais vraiment dans l'acquiescement. Je trouvais que c'était une très bonne réponse. Moi, j'ai choisi la fiction, mais à partir de l'intimité, d'avoir ressenti un jour la passion amoureuse. Donc j'avais envie de... C'est mon point de départ. Et après, comme disait Sophie, j'ai beaucoup aimé cette expression, la malice de la littérature qui permet de l'intime faire de l'extime, ou je sais pas, enfin oui, voilà.
De l'extime, un truc, selon le mot de Michel Tournier. Sophie Dole, on va continuer à parler de votre livre « Au grand lavoir » avec d'ailleurs, encore une fois, j'aurais pu dire un mot de cette couverture très florale. Il est jardinier. Et puis préciser quand même, parce que ça serait trop simple si c'était le cas, que vous parliez du réel qui était à votre disposition, mais manifestement ça ne vous a pas suffi, puisque dans ce réel, il y a un double fond et vous avez eu l'envie, malicieuse peut-être, de provoquer de la fiction. Donc on en parle, on écoute d'abord votre choix musical, et ce choix musical c'est Babix Omaya.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Omaya s'endort sous les mains d'araignée. Omaya s'endort sous les mains d'araignée. Le vent brûlé. Là où poussaient les roses. Là où poussaient les roses. Omaya se repose. Omaya s'endort sous le manteau d'araignée. Omaya s'endort sous les manteaux d'araignée. Dans les vents brûlés. Elle seule le sait. Bientôt repousseront les roses, repousseront les roses.
Babix Omaya, c'est le choix de Sophie Dole qui publie Au grand lavoir aux éditions Philippe Ray, réunie sur ce plateau avec Olivia de Lamberterie, avec toutes mes sympathies chez Stock, et Ça raconte Sarah de Pauline Delabroix-Allard aux éditions de Minuit. Pourquoi ce choix musical, Sophie Dole ?
Il y a une économie de moyens, je trouve, quelque chose d'une sobriété exemplaire, une voix, un clavier, quelque chose qui tourne en boucle, et en même temps, il y a... On marche vraiment vers une tragédie parce que malheureusement on n'a pas pu écouter la fin, mais il y a une chute où dans ce mouvement qu'on croit anodin, finalement à chaque pas, à chaque reprise, on progresse vers cette Omaya. Finalement, elle dort sous le bouquet de roses. En fait, c'est une jeune fille morte, c'est une jeune fille et la mort, comme on peut reprendre aussi dans le livre de Pauline, Ça raconte Sarah.
Exactement, on en parlera. Alors, Au grand lavoir chez Philippe Ray, c'est un texte extrêmement sidérant dans son dispositif, plein de mises en abîme. Je vais juste en redire deux mots pour les gens qui arrivent maintenant. Vous aviez commencé, votre entrée en littérature concernait c'était un texte aussi sur la mort et sur le deuil et sur la vie aussi. Camille, mon envolée, sur votre fille défunte qui avait 16 ans. Ensuite, il y a eu la suture où vous partiez à la recherche de votre mère qui, elle, avait été assassinée à l'âge de 45 ans. Et vous publiez aujourd'hui Au grand lavoir. Alors, ce texte-là mêle la fiction et le réel d'une façon extrêmement malicieuse, je vais dire ça. En fait, c'est votre expression, je la trouve très belle. Puisque la narratrice qui prend la parole dans le livre, imagine donner vie. Et il va parler, lui, à la première personne, au jeu aussi. Donc, elle s'exprime avec, à travers le jeu, et lui aussi. Imagine la vie de l'assassin de sa mère. Imagine ce que cet homme est venu, le fait parler, et perturbe la vie de cet homme à travers la fiction. Puisque cet homme, on le sait, et je le disais, une petite enquête sur Internet permet de savoir qu'il existe, peut-être aujourd'hui, en tout cas. Vous lui donnez la vie, vous imaginez qu'un jour, il regarde la télévision, il tombe sur une émission littéraire, et il voit justement la fille de sa victime, qui va venir signer un livre dans la librairie du petit endroit où il vit. Il sait que ce face-à-face tragique va avoir lieu. Vous parliez tout à l'heure, on parlait de Xénophon, on parlait aussi des Grecs, qui sont très très présents, puisque vous vous amusez, alors le mot est peut-être mal choisi, mais il y a un... Je l'aime et je l'assume, à perturber justement cet homme qui se retrouve finalement dans la position d'Oreste, ou Oreste chez Sartre, hein, dans les mouches, totalement envahi par ces mouches noires et poursuivi, alors, comme le vrai Oreste, par les Érinies, aussi appelées les Euménides, les bienveillantes, joli euphémisme, qui étaient ces furies, hein, disaient les Romains, qui poursuivent les meurtriers et qui les hantent jusqu'à la fin. Alors, voilà, vous m'avez dit, il va falloir tricoter pendant cette émission. Je parle de fiction, je parle d'autofiction, on s'en fiche. Vous dites quoi, vous, Sophie Dole?
J'aime bien le « on s'en fiche ». Ça me va très bien, ça.
Très bien.
Oui, oui. Il était nécessaire, dans la mesure où j'allais prendre à bras-le-corps un personnage qui est encore vivant, ce qui n'était pas le cas des deux précédents récits, puisque c'était vraiment mes envolées, mes mortes chéries. Là, effectivement, je ne sais pas où il est, ce gars, hein, mais il est encore vivant. Donc, le processus ne pouvait pas être le même. C'est un assassin, c'est quelqu'un qui a purgé sa peine. Qu'est-ce que j'allais en faire ? J'éprouvais cependant l'absolue nécessité de le faire advenir dans ce qui pourrait être ce dernier tome, cette trilogie qui se clôt avec Au grand lavoir.
C'est terminé maintenant.
Oui, je pense que c'est purgé, puisqu'on reprendrait des termes comme ça aristotéliciens cette fois.
La catharsis, alors.
Oui, il y a quelque chose.
La purgation des passions, Sophie Dole. Olivia Lambertori.
Parce que moi, j'ai trouvé que votre livre était très beau. J'ai adoré la mise en scène romanesque. Et puis en même temps, je trouve que c'est un livre qui interroge le pardon. Est-ce que le pardon est possible ?
Mais je crois que si j'ai justement eu recours à cette construction un peu compliquée, mais qui n'a de compliqué que des formes que dans des entremêlements, des définitions, des contours pas forcément nets. Moi, j'aime bien quand c'est pas forcément net. J'aime pas qu'on tranche et que l'auteur, en plus, décide à la place de ses personnages ou qu'il ait une conduite extrêmement dirigiste de là où il veut mener sa fiction. J'aime aussi laisser des choses flotter. J'aime qu'il y ait un peu de désordre et le faire apparaître au fil des pages. Quand on manipule des questions comme le pardon, la purgation, la punition, et que ce sont quand même des concepts très difficiles à manipuler en littérature, ou alors peut-être que justement Jonathan Little avec les bienveillantes qui travaillait un petit peu ces choses-là, avec de mettre en scène un criminel nazi, mais extrêmement instruit, formidable, tellement gentil, voilà. Donc il y a des difficultés à s'emparer de certains thèmes en littérature, et j'ai pensé que en recourant à une structure, à une composition très rigoureuse, comme dans une sonate compliquée, on pouvait réussir à provoquer cette mise en abîme sans qu'on soit perdu ou sans qu'on soit donneur de leçons.
Alors, pour qu'on comprenne bien, j'aimerais qu'on vous entende lire, Sophie Dole, un extrait d'Au grand lavoir. Alors, j'ai choisi deux pages où on entend d'abord la voix de la narratrice et puis la voix de l'assassin qui parle aussi à la première personne, voilà. qu'elle fait parler. Ouais.
Moi aussi, j'ai pris perpète, dans un cloaque de chagrin croupi, d'amnésie forcée, de refoulement vaseux qui a fini par s'assécher, discrètement nauséabond. Mais après 30 ans passés dans ce génial sarcophage, la croûte gratte, la plaie reparle. Quelque chose suinte qu'il faut nettoyer à grandes eaux. Alors j'irai au grand lavoir là-bas, où la mémoire se récure contre le granit rugueux, où la langue se rince au torrent qui mousse comme un savon d'encre, où la fiction fait javel. Je regarderai l'eau crasseuse s'écouler dans une grande synovie de mots, et je laisserai sécher les éclaboussures au soleil de leur consolation. Grande lessive. Un personnage s'impose. Quand je me penche au-dessus des derniers reflets, c'est lui que je vois. Star un jour, star toujours. Le type qui a tué ma mère sera donc jardinier municipal à Nogent-le-Rotrou. Vendredi matin. J'ai pas dormi de la nuit. Derrière mes yeux sont venus danser des visages balayés de ma mémoire depuis des années et des années. La femme que j'ai tuée, la fille de la télé, bon, etc. Et là, c'est le jardinier qui parle. Ma créature, mon invention. Effectivement, c'est assez particulier de... Est-ce que c'est une vengeance, comme vous disiez tout à l'heure, ou est-ce que c'est un cadeau que de lui donner quasiment le personnage principal dans un roman? Et il y avait quelque chose aussi que je voulais finir, parce que la suture terminait un peu en falaise. J'évoquais ce sinistre fait divers, j'alléchais le lecteur, et même moi-même, dans la nécessité de tordre le cou à toute cette histoire. Et il fallait aller au bout, il fallait mettre les mains dans le cambouis. Et quand je vous dis qu'il y a de la malice et que quelque part je me suis régalée, c'est que tout en restant proche de thèmes qui allaient être pour moi des respirations, qui me permettraient d'avancer quand même dans cette histoire, c'est-à-dire les fleurs et les sous-préfectures.
Et Nogent-le-Rotrou.
Et Nogent-le-Rotrou. Qui allaient être des remparts, des sortes de matelas qui allaient pouvoir...
Oui, non, j'allais... Parce qu'en fait, vous parliez de des fleurs, etc. Je voudrais juste dire un mot, sans dévoiler, mais il y a des passages qui tiennent aussi dans ce réel, du réalisme magique. Il y a,
oui.
Il y a notamment une scène où c'est mouche et les bouquets de fleurs. Enfin, c'est absolument magique, là. On parlait des signes tout à l'heure avec Olivia de Lamberterie. Juste une petite question quand même sur les mains dans le cambouis. Certes, et j'aime beaucoup votre « on s'en fiche » entre fiction et autofiction, et je pense que la littérature aussi est faite pour qu'on n'ait pas besoin de démêler sans arrêt. Simplement, le motif des mouches, justement, qui renvoie à Sartre, qui lui-même renvoyait à Eschyle, à cette trilogie de ce cycle qui se terminait par les Euménides, est-ce que c'était fait, cette dimension tragique que vous... En plus, tragique et pathétique, parce que ce personnage, il est pas très cultivé, enfin, il a absorbé un peu de culture, mais il se dit, comment s'appelle ce truc avec les mouches là, qu'on me racontait quand j'étais en prison. Est-ce que cet aspect théâtral, cet aspect même mythologique, était nécessaire pour vous, parliez de nécessité tout à l'heure, pour inscrire aussi l'histoire de votre mère dans un ensemble plus large, plus mythique, qu'elle soit pas morte pour rien, quoi.
Oui, bien entendu, dans la mesure où on peut se dire que c'est un fait divers, somme toute assez banal, et que en plus je mets ce personnage dans une situation d'une banalité effarante, devant la télé, avec des barquettes de repas tout fait. À un moment donné, je me suis sentie glisser vers trop de pathos, c'est-à-dire qu'il fallait redonner la nervosité que le tragique, que je fréquente beaucoup grâce au théâtre et qui m'habite depuis très longtemps, donne. Et c'est-à-dire que je reprends aussi, vous citez Faulkner, Olivia, dans un des passages, et vous dites, mais la folie de l'homme, c'est qu'il peut supporter n'importe quoi, dit Faulkner, n'importe quoi, répète-t-il. Et tous les personnages des tragédies grecques ou qui sont sous le poids d'une injonction mythologique comme ça supportent n'importe quoi. Il y a cette histoire d'Hubris, etc. Et nous sommes de tout petits êtres. Il y a une grande bassesse à habiter ce monde. Chacun avec les circuits qui sont les siens et les ressorts qui sont les siens. Mais ça vaut le coup quand même des fois. Et la littérature le permet de redonner de la vaillance, de la hauteur, une musculature apollinienne à tout ça, quelque chose qui soit vigoureux et qui nous entraîne plus loin. Alors les Grecs, pour ça, c'est toujours une ressource.
Exactement. Ça vaut le coup, disait Sophie Dole. Je me tourne vers vous, Pauline Delabroix, à l'art. Ça vaut le coup, c'est aussi la leçon de Ça raconte Sarah, au fond. Il y a ce ça qui est merveilleux aussi. C'est étonnant. Pourquoi ce ça? Alors, on n'est pas chez Freud, mais il y a presque quelque chose de direct, d'énergique et de volontiers familier.
On n'est pas chez Freud, mais il y a quand même évidemment quelque chose de freudien dans ce titre qui me plaît pour d'autres raisons et notamment pour son côté obsessionnel, quoi. On peut le dire en boucle sans jamais s'arrêter. Et c'est ce que vraiment j'avais envie de raconter, c'était... C'est un livre sur l'obsession, en fait. L'obsession sur le... Et puis la vie avec un être disparu qui, finalement, est plus présent, disparu que présent, quoi.
Là, par exemple, juste une question, sans savoir, parce que ça vous regarde et on s'en fiche, mais juste, juste le choix de la fiction. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un débat qui se pose de plus en plus. Vous choisissez la fiction, ça tout de suite dans un premier roman, puisque c'est votre premier roman. Il était évident ce choix de la fiction par rapport à un choix auto-fictif. J'aime pas trop ces catégories-là, mais comme aujourd'hui on est obsédé par ça.
Oui, je suis très étonnée que vous disiez ça, Christophe, parce
oui,
que
Sophie Dole, oui.
De mon côté, ce livre que j'ai dévoré, qui ne m'a pas laissé complètement indemne, qui provoque quelque chose de physiquement extrêmement,
palpite,
très rugueux aussi. Enfin, c'est une vitesse. Bref. Et jamais, j'ai beaucoup hésité entre fiction et réalité,
oui,
puisque c'est une première personne.
Bien
donc vous m'apprenez en fait là que c'est une fiction.
Je n'apprends rien, je pose la question à l'auteur qui est le mieux placé pour répondre à cette question.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a écrit roman sur la couverture, donc c'est vrai que la question se pose. Après, la narratrice, peut tout à fait être mon double, en fait. On peut me reconnaître. Il se trouve que je suis moi-même à la Trieste. Enfin, voilà, il y a des... Ah, non.
Oui, non. Ne rentrez pas dans les détails. Tout ça vous appartient. Non, je voulais juste sur cette notion de fiction qui est parfois aujourd'hui aussi un petit peu discréditée. Ça serait de l'ordre de l'imaginaire. Ça serait de l'ordre des choses sans poids, sans...
Ce qui est compliqué quand on veut raconter une histoire d'amour, c'est ça, c'est que elles ont toutes été racontées.
Voilà.
Donc il fallait trouver un biais qui m'intéressait plus, ce que j'ai cru faire en tout cas avec la première partie du roman qui est un portrait. J'avais très envie de m'essayer à cet exercice-là. Comment on peut portraitiser quelqu'un, une femme en l'occurrence, et en fait je me suis rendu compte que c'était très difficile, que c'était essayer d'épuiser quelque chose d'inépuisable.
Olivia.
Mais moi j'ai lu votre livre et ce que j'ai trouvé très beau, c'est que vous faites confiance justement au roman et vous faites confiance à la langue. Et cette histoire d'amour, mais je me souvenais de mon professeur de littérature à la Sorbonne, Monsieur Molinier, qui disait...
Ah oui, Georges.
Exactement, Georges. Et il disait, la littérature n'est qu'une exposition de « je t'aime moi non plus
oui. ».
Bon, voilà. Mais sauf que vous faites une telle confiance à la langue que vous renouvelez...
Elle renouvelle le stock.
Oui,
voilà.
Elle renouvelle l'histoire d'amour.
Exactement.
On va
vous écouter, Pauline Delabroix-Allard, lire justement un passage. C'est la première partie, donc la partie... Portrait, on vous écoute.
Elle se dresse au-dessus de moi, les seins nus et fiers, belle, tragiquement belle. Le temps s'étire, ça reste presque, tout devient lent et long. Mon cœur caracole dans ma poitrine, dans mes veines, dans mes tempes. À genoux près de moi, on dirait une icône, une image religieuse. Pour un peu, on pourrait croire qu'elle prie. Elle ne me touche pas, elle me caresse du regard. Instant de grâce, moment sacré. Silence. Puis elle me regarde dans les yeux, elle enfonce ses doigts en moi, loin, très loin, si loin que ça me fait tourner la tête, baisser les paupières. Elle souffle sur mes cils, sa bouche tout près de la mienne, elle murmure des mots d'amour qui me transpercent. Ses doigts sont loin, perdus en moi, elle joue au fond de mon ventre une musique qui me rend folle. Elle fait se tordre mon corps, se cabrer mes reins, elle ne s'arrête jamais, elle va de plus en plus loin, de plus en plus vite, si bien que je ne suis plus qu'une poupée de chiffon, un pantin.
Un pantin, et juste après, on en a parlé avant, voilà, la mention géographique, il y a tout un jeu aussi à Pantin, quand elle se sent un pantin, à Consola, vers Marseille, dans une rue, quand justement rien ne va plus et qu'il faut peut-être appeler la littérature et la géographie pour se consoler. Merci Pauline Delabroix-Allard pour cet extrait. On disait tout à l'heure, dans cet art du portrait, il y a le « ça » qui revient... Le leitmotiv aussi, la répétition, c'était la façon la meilleure que vous aviez trouvée pour justement portraitiser cette femme à coup de répétition aussi, comme si on pouvait pas l'épuiser.
Oui, la répétition, c'est l'inépuisement, c'est aussi le lien avec la musique qui était très important pour moi. C'est aussi, donc, comme je le disais, la figure de l'obsession, quoi. La vie n'est plus que répétition.
Leitmotiv.
Que leitmotiv.
Ça suit son cours, ajouterait d'ailleurs Beckett, voilà, s'il nous écoutait. Je dis juste un mot quand même pour ceux qui arrivent maintenant, que dans ce premier roman, Ça raconte Sarah, qui est publié aux éditions de Minuit, donc qui est votre premier roman, ben, on trouve cette phrase qui revient, Ça raconte Sarah. Et qui est Sarah? C'est un être totalement incandescent, une jeune musicienne qui arrive dans la vie d'une femme qui ne pensait pas que ça lui arriverait un jour, d'aimer une femme, qui est la mère d'une petite fille, et la passion va les brûler toutes les deux. Et c'est vraiment, quand je dis brûler, là, c'est pas le lieu commun d'une passion qui brûlerait, c'est qu'on sent vraiment, Olivia de Lambertery en parlait, ça crépite de mille étincelles, on a l'impression que chaque phrase est une petite étincelle, essayant de portraitiser justement cette Sarah qui échappe, qui est là, qui se donne, mais qui échappe aussi, et qui va échapper, car la mort s'invite dans l'histoire dès les premières pages, puisque la narratrice qui raconte Sarah décrit Sarah comme une future morte, son visage de morte. Et ça, je vous ai posé la question tout à l'heure, mais il fallait vraiment que ça soit inscrit dès le départ. En fait, parler d'une passion, d'ailleurs on revient à la sympathie, à la souffrance, parler d'une passion impliquait justement la part étymologique de passion, c'est-à-dire la souffrance venant de la mort.
Et bah pour moi, oui, parce que plus personne n'est dupe, justement, avec toutes les histoires d'amour qui ont été écrites, chantées, romancées, mises en scène au théâtre, tout le monde connaît la fin, quoi. On sait ce qui se passe. Donc, pourquoi pas en parler tout de suite, ne pas duper son lecteur, qu'il n'y ait pas forcément de happy end à l'horizon. Et c'était d'autant plus important que, voilà, le livre est construit, comme vous l'avez dit, en deux parties. Et la première partie, c'est le portrait, c'est le personnage de Sarah est censé être présent, mais en fait, elle est absente, elle s'échappe, elle s'enfuit, voilà. Et la seconde partie, à l'inverse...
On est triste à Trieste,
on est pantin à Pantin. Elle n'est plus là, et pourtant, elle est partout. Donc voilà, c'était ce qui m'importait de faire.
Un petit mot quand même sur la musique. Vous disiez qu'on a parlé de la langue, on a parlé de ce leitmotiv qui est présent dans le titre, Sarah contre Sarah. Sarah, elle est musicienne, il est question de la jeune fille... et la mort. Cette musique-là était... Je vous pose cette question parce que c'est aussi un premier texte. La musique a accompagné aussi cette recherche d'une musique personnelle par les mots ?
Un peu, mais tout comme j'arrivais plus rien à lire, j'arrivais plus rien à écouter non plus. Donc c'était un peu une période d'ataraxie totale, bizarrement. Mais par ailleurs, dans ma vie, la musique est très importante. Et donc je pense qu'effectivement, j'ai été inspirée, oui, par des choses. Mais que dans ma période d'écriture, j'ai plus du tout écouté.
Je dis pour les auditeurs, hein, on est témoins ici. Vous avez devant vous un exemplaire de votre livre qui est totalement... peinture lurée, peint avec des oiseaux.
J'adore.
Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous avez enlevé une partie du titre. En fait, sur ce livre-là qui est dessiné, il n'y a plus que Sarah.
Alors, c'est l'œuvre originale d'une amie à moi qui est illustratrice. Donc, c'est elle qui a pris cette décision-là. Elle me l'a rendue comme ça. Et j'en suis très fière de mon exemplaire. Je l'aime beaucoup.
Et avec les oiseaux.
Et avec les oiseaux, en hommage aux frères disparus.
Voilà. J'aime que ce soit des oiseaux, moi aussi.
Et de l'envoler. Voilà.
Merci beaucoup à toutes les trois. Avant de se quitter, ou plutôt après s'être quitté, on écoutera votre choix musical. Je voudrais que vous en disiez un mot quand même. Vous avez choisi la sonate pour piano numéro 19 de Schubert. Elle est interprétée par Louis Schwitzgebel. Pourquoi ce choix musical ?
Ah ben, j'aurais pas eu envie de le commenter en réalité. J'aimerais qu'on l'entende. J'imagine qu'on l'entendra pas dans son entier, mais pour le coup, c'est un morceau qui m'a beaucoup porté à la fin de l'écriture de mon livre.
Merci à tous les trois. Olivia de Lambertery, Avec toutes mes sympathies, c'est chez Stock. Sophie Dole au Grand Lavoir, chez Philippe Ray. Pauline Delabroix à l'art, Ça raconte Sarah. Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis, à la technique Delphine Baudet. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an, réécouter de manière infinie sur franceculture.fr, 7h avec Olivia de Lambertery, Sophie Dole et Pauline Delabroix à l'art.